Donc, rebonjour à tous. Donc, on démarre l'après-midi avec quand même une bonne demi-heure de retard. On va essayer de rattraper un petit peu sur la première table ronde. Donc, je remercie par avance les intervenants d'essayer d'être le plus dense possible. Donc, cette fois, ce matin, on a fini en parlant de la collecte des données. Mais on disait déjà pour quelle exploitation, et cet après-midi, on passe du côté de l'exploitation. Mais il est évidemment assez difficile, c'est un peu artificiel de couper les choses comme ça, puisque en général, quand on a un objectif particulier d'analyse et d'exploitation, et c'est là-dessus que les intervenants cet après-midi dans cette table ronde vont se concentrer, donc pour quelle exploitation, quels outils d'analyse, quelle exploitation, et forcément quand même un petit peu pour quel décideur, et là on va empiéter sur la table ronde suivante. Voilà, donc on a autour de la table David Lisiard, qui est directeur des médiathèques d'Issy-les-Moulineaux, une ville d'environ 60 000 habitants, c'est ça, David, et deux médiathèques, c'est ça, hein. Et deux collègues qui viennent du même département, Pascal Fruchon, donc, qui est directeur de la BDP de l'Aude, et Emmanuel Massard, qui dirige le réseau des bibliothèques de la communauté de communes de Castelnaudary et du bassin Lauragais. Et on a évoqué déjà ce matin des questions un peu d'intercommunalité, la difficulté peut-être à évaluer aussi cet échelon-là. Donc, je vais vous proposer, on s'est mis d'accord comme ça, que David fasse une première présentation où il va aborder un peu les différents versants. Et on verra peut-être à ce moment-là, soit rebondir avec quelques questions par rapport à l'intervention de David, et peut-être voir après un point de vue, on va dire de deux points de vue dans le même département, la BDP et une communauté de communes, et peut-être comment vous travaillez ensemble aussi à ces questions d'analyse et d'exploitation des données. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour ne pas prendre plus de temps. Donc, David.
Bonjour. Alors, Annie Dourlan nous avait posé deux questions. La première était, est-ce que vous utilisez uniquement les données de la DLL ou collectez-vous d'autres données? Et ensuite, comment les utilisez-vous en tant qu'outil d'aide à la décision? Donc, je vais vous donner rapidement quelques exemples pour après faire quelques réflexions éventuellement sur le type de données et d'outils dont nous aurions besoin. Alors, à l'heure actuelle, finalement, j'avais envie de dire que pour tout ce qui peut être objet de décision, de négociation, voire de remise en cause budgétaire, on a besoin d'avoir des arguments chiffrés. Donc, j'avais fait une liste un petit peu à la Prévert sur tous les objets qu'on peut quantifier à l'heure actuelle. Ça peut aussi bien concerner le budget qu'on va dépenser pour un type de document, les accès en ligne, mais aussi des choses beaucoup plus triviales, comme par exemple le distributeur de boissons. Est-il plus ou moins en panne? Y a-t-il matière à renégocier avec le distributeur, etc. Donc à l'heure actuelle, surtout dans un contexte difficile de rationalisation des budgets, tout doit être argumenté par une base chiffrée. Et même les chiffres mêmes, puisqu'on peut être amené, on parlait aussi du taux d'entrée, donc qu'on comptabilise avec des portiques d'entrée. Même ce type de données peut être sujet à erreur. On peut comptabiliser le taux d'erreur sur différents portiques qui peut être effectué. Donc ça, finalement, donc à chaque fois qu'on va avoir un sujet de réflexion, l'aspect quantitatif va être en jeu. D'autres données qui peuvent exister, les indices de satisfaction. Donc j'avais par exemple, je vais vous faire défiler rapidement. La ville d'Issy-les-Moulineaux avait par exemple utilisé un cabinet pour faire un sondage direct à la population, donc 400 personnes interrogées dans la rue qui étaient interrogées sur les établissements culturels. On demandait aux gens s'ils connaissaient ces établissements, s'ils étaient plus ou moins satisfaits et s'ils avaient éventuellement des remarques à faire. Donc c'est un exercice apologétique, comme on a pu le dire ce matin, donc une satisfaction pour les médiathèques, pas forcément quelque chose de décisionnel, sauf éventuellement dans les recommandations un peu plus précises. Donc on savait que, par exemple, à la question « souhaiteriez-vous avoir une carte commune unique pour les différents établissements ?», la très grande majorité plaçait ça comme une priorité. Toujours dans le chapitre des enquêtes de satisfaction, on peut signaler qu'à la ville des Séminaux, la ludothèque est dans le cadre d'une norme Caliville dans laquelle elle utilise très régulièrement des enquêtes de satisfaction sur plein d'aspects différents sur son service. D'autres données que nous utilisons, les données concernant la population, qui peuvent venir des chiffres qui sont publiés par l'INSEE en titre de catégorie de population, ou ceux que peut nous fournir la municipalité, par exemple en termes d'équipement des publics sur Internet. Donc on sait par exemple qu'il y a au moins 80% des lycéens qui sont équipés à domicile avec Internet. Et enfin, des données, donc toujours dans les données extérieures au SSL, la comparaison entre bibliothèques. Donc notamment, on va être amené à faire, alors parfois en s'aidant des chiffres qu'on voit en ligne, parfois non. Alors, il y a plusieurs remarques qui ont été faites sur les limitations sur les chiffres existants de l'ex-DLL, comme quoi c'était pas en version papier, comme quoi c'était incomplet, mais aussi le fait qu'actuellement c'est en retard, puisque à ma connaissance, les derniers chiffres exploités datent de 2005. Donc ce qui est un petit peu... Non, corrigez-moi.
2008.
Bon, ils sont finalement bien cachés, voilà.
En fait, d'accord. Vous ne le saviez pas, mais il y a un jeu, si vous trouvez. Si vous avez
donc
trouvé des statistiques.
Ça vaut le coup de chercher sur le site, voilà. Et d'ailleurs, là, c'est là qu'on va faire des... C'est un aspect sur lequel on verse plus sur le qualitatif, puisque... Il ne va pas nous suffire de savoir que telle bibliothèque fait beaucoup de prêts sur ses revues jeunesse ou sur ses abonnements électroniques. Là, généralement, quand on va contacter des collègues un par un, c'est plus pour savoir pourquoi telle ressource électronique marche ou pas. On est plutôt intéressé par des enquêtes de type qualitatif. Voilà. Et enfin, tout de suite, la deuxième question, on collecte tout ça, mais c'est parce qu'on a déjà des questions en tête. Et finalement, les deux grands sujets sur lesquels on pense, c'est est-ce que tous les services qu'on met en place sont pertinents ? Donc les collections qu'on veut développer, les offres alternatives et les moyens en termes d'efficacité ou d'efficience, comme on disait également ce matin, sont-ils pertinents? Et là, c'est beaucoup plus difficile à savoir. Les statistiques aident beaucoup à déterminer un niveau, une augmentation ou une baisse de niveau, mais beaucoup moins des choses en termes de pertinence. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir des outils qui iraient dans ce sens-là. Alors, j'ai essayé de lister quelques exemples assez faciles à repérer dans lesquels on réutilise des statistiques. Donc, notre communication pour le public, ça comme font maintenant la majorité des bibliothèques. On va citer quelques grands chiffres pour donner une image, parce qu'on se dit que les gens ne se représentent pas forcément l'importance du service donné. Donc, on va retrouver un certain nombre de chiffres en termes d'accès Internet, de mètres carrés ou d'heures d'ouverture ou de documents dans la communication publique de la ville. C'est aussi ce que vont voir en premier les acteurs municipaux, donc c'est important. Par contre, un biais de ce type de présentation, c'est toujours l'accent mis sur le quantitatif. Donc, actuellement, la ville d'Issy-les-Moulineaux cherche à mettre des tableaux de bord un peu plus élaborés que les bilans annuels qui étaient développés. Et notamment, une des remarques que j'ai pointées, c'est que notamment l'augmentation annuelle du nombre de documents n'était pas forcément en soi quelque chose de positif, puisque c'est un ratio qui était identifié comme devant toujours augmenter. C'est vrai dans certains cas. Vu que, par exemple, quand les rayonnages se mettent à déborder, ce n'est pas forcément quelque chose de positif d'avoir toujours cet accroissement quantitatif. Alors, toujours dans l'aspect statique et photographie de ce qu'on peut faire, donc là, je vais essayer de retrouver les données 2008 puisqu'ils sont sur le site. J'avais essayé de retrouver... Alors, on a souvent dit ce matin que la moyenne n'était pas une norme. Alors, néanmoins, c'est vrai que dans un contexte sociologique et urbain assez similaire, c'est quand même bien utile de voir ce qui peut se faire à côté, plutôt que de partir simplement sur des chiffres nationaux. Donc notamment, c'est quelque chose qui est assez facile à faire en copiant les chiffres, en les mettant sur Excel et en travaillant un peu dessus, donc d'identifier si par rapport à des villes de son département, où est-ce qu'on se situait, et à partir de là, on pouvait faire des interprétations, est-ce qu'on est plutôt bien, est-ce qu'on est, quand on est à un certain rang, est-ce que ça a une signification, et de par notre connaissance des collègues. Et aussi, c'est quelque chose que nos interlocuteurs sur la ville peuvent très facilement identifier et comprendre pour se dire est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, est-ce qu'on souhaite faire mieux. Ça reste toujours insuffisant, mais ça donne une idée. Alors, ce matin, on nous a parlé des deux nouveaux questionnaires du SSL, dont la version raccourcie, donc, qui fait 7 pages, et la version longue, dans laquelle il y a 478 items à renseigner. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps. Alors, c'est intéressant, mais la question qu'on se pose toujours, c'est comment remplissent les autres collègues? Est-ce qu'ils sont aussi sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je suppose que vous n'ignorez pas que quand on multiplie les items, il y aura de plus en plus de biais méthodologiques qui vont rentrer dans les moyennes qu'on va en tirer. Un chiffre qui m'intéressait particulièrement, c'était une nouveauté pour cette année, la répartition des équivalents temps plein. Alors, il faut bien lire l'explication dans l'aide. Il faut se baser sur la norme 2709 pour arriver à savoir comment faire, puisque c'est pas trivial, il y a tout un ensemble de questions qui peuvent se poser. Malheureusement, comme la norme ISO 2709 n'est pas dans Electre, qu'elle n'est pas dans la BPI et qu'elle n'est pas au centre Buffon la centre de documentation sur les métiers aux bibliothèques, je n'ai pas pu la consulter dans les temps et mettre en place de méthodologie. Donc je pense que ce n'est pas encore assez diffusé et assez accessible en public pour être vraiment approprié. Néanmoins, pour moi, c'est très important qu'on se base sur des normes, puisqu'au moins, on va pouvoir dire à tous les interlocuteurs qui vont nous proposer d'autres chiffres en disant « non, on a déjà calculé et on a calculé avec la norme ». Donc, c'est au moins important d'avoir un repère commun. Hormis ces remarques sur la méthodologie, c'est vrai que c'est des données qui, là, étaient complètement nouvelles et qui sont, à mon sens, assez stratégiques. ça reste statique, on ne sait toujours pas si c'est bien ou si c'est pertinent ou pas. En tout cas, c'est une donnée, je pense, assez nouvelle en interne et en externe, de savoir comment on va répartir les tâches. Donc là, notamment, vous voyez, j'ai essayé de représenter en bleu clair le temps d'accueil effectué par les titulaires et les vacataires et le temps exercé en documentaire en marron. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. je pense que c'est bon. Voilà. Et en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de visibilité à l'heure actuelle sur le réseau. Donc, c'est intéressant pour commencer à en parler entre collègues sur nos stratégies d'organisation et sur les moyens qu'on demande à la ville.
Juste une question, David, sur le graphique. C'est l'échelle, c'est des heures
ou... C'est des équivalents temps plein. Nous passons 16 équivalents temps plein de titulaires par an qui sont présents en accueil.
Ok, d'accord. Merci.
Et 2,7 sur l'action scolaire, par exemple. Alors... Ensuite, des données qu'on essaie de présenter de manière dynamique. Donc, chaque année, on remplit des chiffres de documents. Alors, c'est un petit peu ce que j'appelle la météo. C'est-à-dire, on va regarder la courbe. Est-ce que c'est mieux qu'hier ou moins bien que demain? Donc, là, c'est un document qui rapidement présente, j'ai pris l'année 95. C'était la première année où la médiathèque centre-ville était ouverte une année complète. Et j'ai mis les chiffres en base 100. Donc, sur la gauche, vous voyez, en base 100, vous avez le nombre d'emprunteurs actifs et le nombre de prêts effectués. Ce qui permet, c'est pour mettre à la même échelle les deux chiffres. Et on voit les phénomènes qui se passent en 16 ans sur les deux courbes. Donc, par exemple, on voit que les deux augmentent, sauf parfois de manière parallèle. Et là, on voit qu'on a un écart entre les deux, ce qui peut nous amener à différents types de réflexions. Par exemple, on sait qu'on a changé les modalités, les tarifs d'inscription, les ratios. On voit que ça a eu des effets différents. Donc là, c'est très important, puisque souvent, quand on va présenter des chiffres à des interlocuteurs, ils nous disent souvent est-ce que ça augmente ou est-ce que ça baisse par rapport à l'année dernière. Ne serait-ce que d'avoir une visibilité sur plusieurs années permet quand même de contextualiser les choses et d'essayer d'analyser les changements culturels. Un chiffre que j'aurais bien voulu mettre aussi, c'était le nombre d'entrées, mais on n'a pas de données assez, on n'a pas assez d'antériorité pour pouvoir l'intégrer. À nouveau, toujours l'idée d'évolution sur le temps. Donc là, c'est les évolutions sur les catégories d'âge emprunteur actif. Donc, qui permettent par exemple de voir que ça va à peu près bien, sauf peut-être sur la tranche des 20-29 ans, qui est la troisième tranche, où on voit qu'entre 2002 et 2009, c'est là qu'on a eu la plus forte baisse, ce qui est convergent avec les autres enquêtes qualitatives qu'on a sur le pays. Et par contre, une augmentation sur les 65 ans et plus, tout à fait à votre droite. Alors, parmi les 478 items qui nous sont demandés, il y a énormément de choses qui concernent les collections. Donc, c'est intéressant. Maintenant, quelle décision, quelle conclusion en tire-t-on sur un plan local? Donc, surtout que dès qu'on a des collections sur lesquelles il y a beaucoup de catégories, beaucoup de chiffres, c'est très difficile à exploiter et d'avoir une vision synthétique et de me dire, bon, ben, tel fonds va bien, tel fonds va pas bien, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Donc là, par exemple, c'est un outil que j'ai présenté à l'équipe pour leur dire, on a tous ces chiffres sur les taux de rotation ou sur les collections, qu'est-ce que ça veut dire? Donc notamment, la traduction du graphique, en bleu clair, vous avez le nombre de documents répartis, c'est un mélange de type doc et de secteur, et en rouge, vous avez le nombre de prêts. Donc ça permet de visualiser tout de suite ce qu'est un taux de rotation. Donc par exemple, les romans, on va avoir en gros 35 000 romans, ça concerne la médiathèque centre-ville, et qui vont faire 80 000 prêts. Donc ça permet de mesurer d'un seul coup de manière graphique l'importance des fonds et les ratios différents. Et on voit par exemple que les CD, on peut emprunter 20 CD à la médiathèque et on voit que c'est très utilisé actuellement. Donc là, je vous ai juste sélectionné un outil parmi d'autres. C'est avec tous les chiffres qu'on a sur les collections, comment on le présente, comment on les exploite. Alors, pour terminer mon intervention, donc on a plein de chiffres qui sont photographiques, qui sont des photographies soit à un moment T, soit de manière dynamique. La question qui se pose avec, c'est ce qu'on fait, est-ce bien ou moins bien, est-ce qu'on pourrait améliorer? Donc notamment, actuellement, je me posais la question sur les collections et sur la répartition des budgets. On a une certaine hauteur de budget. Dans les manuels de bibliothéconomie, vous trouvez des conseils pour définir la hauteur du budget. On dit qu'il faut entre 5 et 10% de renouvellement, d'accord, très bien. Il faut aussi prévoir jusqu'où vous voulez mener vos fonds en termes d'évolution, d'accord. Mais une fois qu'on a un budget, comment on va le répartir à l'intérieur, sachant qu'on ne souhaite plus forcément faire évoluer les collections. Donc il y a quelque chose qu'on identifie de manière assez facile, c'est le taux de rotation, mais qui est à lui tout seul insuffisant pour dire c'est pas parce que vous avez un taux de rotation très important qu'on va vous mettre forcément énormément de budget. Donc j'ai essayé de potasser les différents livres de bibliothéconomie pour savoir si, au moins à un niveau statistique, il y avait quelque chose qui pouvait nous aider pour dire, bon, est-ce qu'une hauteur de budget est bonne ou mauvaise? J'ai trouvé un chiffre qui est cité dans le manuel de management des bibliothèques, mais qui est repiré d'un manuel de l'IFLA, qui s'appelle le degré d'utilisation. Donc, c'est assez simple, en fait, c'est-à-dire ça tient compte, ça rassemble en un seul chiffre qui est en bas à droite. Ça tient compte à la fois du pourcentage de prêts, est-ce qu'on a fait plus ou moins de prêts dans votre collection? Et ça l'arrondit en tenant compte d'autres facteurs, c'est-à-dire est-ce que vous avez beaucoup dépensé dessus et est-ce que pour beaucoup de documents, ce qui permet de corriger un petit peu les fonds où chaque document individuellement est assez cher. Et à la fin, ce qui est intéressant, on a l'exemple de deux fonds, un fonds d'économie et un fonds de beaux-arts. On a un fonds d'économie qui représente 7%, enfin 6,95% des dépenses, 7,55% des documents acquis et 17% des prêts. On voit qu'il y a une activité beaucoup plus forte que le fonds des beaux-arts. Et là, la tentative de ce manuel de l'IFLA, c'est de le proportionner en disant oui, est-ce que c'est beaucoup plus, mais jusqu'à quel point? C'est juste un exemple, mais justement, enfin, c'est toute la difficulté, comment partir de chiffres sur les collections, sur les équivalents temps plein, pour se dire oui, on les utilise bien, non, on pourrait les rééquilibrer mieux en interne. Donc c'est un des exemples d'équations que j'ai trouvé, mais on n'en trouve pas forcément énormément. Donc c'est la raison pour laquelle... ce que moi j'aurais besoin en tant que directeur d'avoir comme données à titre national, ça soit bon, à la fois des mises à jour sur les autres bibliothèques, donc si c'est cartographique c'est d'autant mieux, s'il y a des synthèses qui sont publiées dessus c'est d'autant mieux. Je pose seulement la question, s'il y a 478 champs, est-ce qu'ils seront tous bien remplis très sérieusement? Ça, je regrette que les explications soient un petit peu cachées par rapport à la définition des champs, il peut toujours y avoir des ambiguïtés et on s'en rend compte quand on regarde ce qui se passe sur des établissements qu'on connaît. Voilà, mais ça, de toute façon, il y aura toujours ce type de problème, je suppose. Et après, pour conclure, c'est vrai qu'on est plutôt demandeur aussi, malgré tout, de moyennes ou de normes pour se situer dans un environnement. C'est-à-dire, de fait, les bibliothécaires ont énormément cité le chiffre 17, hors tout contexte, hors contexte de population, parce qu'au moins, ça leur donnait un repère facile à mémoriser et par rapport auquel elle se situait, en se disant on est dedans, on n'est pas dedans, on en est loin, ça va. Donc, c'est vrai que sur tous les autres types de données, je dirais importance des collections, ça existe un petit peu par rapport au mode de subvention. Mais par contre, sur d'autres données, taux de rotation ou comment j'organise mon équipe en interne, bien que ça soit assez contraignant puisque chaque contexte est différent, c'est vrai que moi, je serais plutôt demandeur pour que des recommandations de type national sur qu'est-ce que doit être une bibliothèque par rapport à des différents profils et comment faudrait-il qu'elle soit gérée en interne. Voilà.
Merci beaucoup pour cette intervention très dense. Et très riche, je trouve, et qui emmène vraiment sur des questions qui dépassent effectivement la question de la collecte de chiffres, mais bien la mise en relation de différents chiffres entre eux avec des données externes. Et donc, voilà. Mais bon, je passe la parole à la salle parce que je pense que peut-être il y a des gens qui ont des questions à poser par rapport à l'intervention de David. Non, ça vous laisse pantois. Donc juste moi pour peut-être une question, David, c'est les chiffres que vous nous avez montrés, avec qui les utilisez-vous? C'est-à-dire, est-ce que vous en faites une analyse pour vous en tant que chef de service pour réorienter éventuellement des budgets, des répartitions de dépenses, notamment le dernier exemple sur le degré d'utilisation. Donc quand on constate ça, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion, hein? Donc l'économie a un degré d'utilisation beaucoup plus fort. Là, il y a quand même une question qu'on a envie de se poser entre le domaine économie et le domaine beaux-arts. Donc qu'est-ce que vous en faites pour vous, éventuellement pour le personnel, voire pour vos élus, quand vous avez à défendre votre budget?
Alors en fait, dans la présentation, j'ai mélangé différents types de documents qui vont du public au purement interne, en passant par les données qui sont demandées par des élus ou d'autres services. La difficulté, c'est de donner quelque chose qui soit facile à comprendre pour les différents interlocuteurs. C'est-à-dire, même pour des bibliothécaires, le degré d'utilisation, il faut quand même expliquer ce que c'est. Il faut dire, c'est pas parce que c'est plus haut que les beaux-arts sont moins intéressants, par exemple. Donc, il faut contextualiser. De fait, moi, ce que j'ai proposé à l'équipe, c'était plutôt des données graphiques pour qu'ils puissent se situer dans leur environnement, avoir une vision un petit peu globale. Ce qui est transmis aux usagers sur les documents publics, c'est toujours validé par la ville de toute façon. Et ce qui est demandé par les élus, ça fait toujours l'objet d'une négociation puisqu'ils doivent avoir des données qui sont aussi lissées avec l'ensemble des autres services. Il faut qu'ils puissent comparer, il faut que ça ait un sens. On ne peut pas non plus aller vers trop de données pour la bibliothèque. On ne peut pas toujours accentuer la particularité. Donc de fait... ce qui est demandé pour la ville. Enfin, ça a intéressé, par exemple, l'élu de se situer par rapport aux autres communes. Ça, c'est effectivement quelque chose de très parlant.
Notamment l'exemple par rapport aux bibliothèques du 92 du département.
Complètement, oui. Mmh. Ça permet de relativiser certaines choses et d'en valoriser d'autres. Par contre, dans les bilans annuels, ça va quand même assez vite. On a quand même un certain nombre de données. Il ne faut pas partir plus de 6 données à présenter, à justifier, à expliquer. Notamment, on leur a bien signalé, il ne faut pas oublier le nombre d'entrées, des choses comme ça. C'est assez rapide. Donc, enfin, il faut vraiment distinguer des niveaux. Il y a finalement assez peu de données qui vont être présentées aux élus, puisqu'il faut que ça soit des choses très parlantes et très significatives. En interne, c'est plus pour donner une vision à des acteurs qui s'occupent de leur secteur, mais qui doivent aussi voir comment on les traite par rapport à d'autres secteurs. Et après, quelque chose comme le degré d'utilisation, je ne vais pas forcément en parler tous les jours. Voilà, c'est vraiment ça, je l'expliquerai si j'emploie moi comme quelque chose qui va avoir des conséquences sur la répartition du budget. Là, pour le moment, c'est uniquement à titre de réflexion. Par contre, pour des choses comme le calcul des équivalents temps plein, les équipes vont forcément être sollicitées à un moment donné. Il y aura besoin de deux sur les aspects de polyvalence. Donc là, il faudra bien leur expliquer ce que ça veut dire. Enfin, aller jusqu'à un certain point méthodologique sans leur citer forcément la norme ISO, mais en tout cas en leur expliquant le contexte.
Et donc là, concrètement, le graphique sur les équivalents temps plein, les équipes ont participé à la construction.
En fait, ça, c'est moi une estimation que j'ai faite en préalable avec mes chiffres, et je leur ai dit voilà ce que j'ai, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ce sont les bons chiffres, est-ce qu'on peut travailler dessus en interne par équipe pour détailler un petit peu plus. Puisqu'il y a 60, il y a 58 équivalents temps plein titulaires à la médiathèque d'Issy-les-Moulineaux. Voilà.
Yegor, tout en retenant qu'on passe de 478 items à 6 données à présenter aux élus.
N'en faites pas plus, s'il vous plaît.
Je voulais réagir sur les 478. Annie est tout à fait bien placée pour témoigner du fait que quand nous avons réfléchi à la refonte du questionnaire ou dans le groupe de travail, c'était une gymnastique assez complexe dans la mesure où chacun a ses marottes et je pense que vous avez très bien démontré à quel point on pouvait faire des choses intéressantes sur des données très ciblées et qui sont pas forcément les données qu'on associe le plus naturellement avec une évaluation de bibliothèque. Tout le monde était d'accord pour dire que le questionnaire était trop gros et qu'il fallait le sabrer, mais personne n'était d'accord sur les zones à sabrer. Donc nous avons fait une espèce d'équation la plus équitable possible en essayant de tenir compte de la masse globale de questions que nous posions, tout en laissant une place considérable ou du moins suffisante pour tous les secteurs d'activité, de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver. Après, sur la question de savoir si les professionnels sur le terrain s'empareront de cet outil, nous, on a peut-être une confiance immodérée dans la chose, mais je pense qu'à partir du moment où vous faites la démonstration, comme vous l'avez fait très bien là, de toutes les exploitations qu'on peut faire de ce type de chiffres, ça n'est pas uniquement un dialogue unidirectionnel entre une collectivité locale et une administration centrale. Ce que remplissent les responsables d'établissement, ce sont des chiffres qui peuvent leur être utiles au quotidien, et plus ils les rempliront correctement, et plus ils auront de chances d'avoir un retour intéressant là-dessus. Voilà.
Sur l'exploitation justement de la totalité des chiffres, moi il me semble aussi qu'on les utilise de manière, on va piocher un moment dans tel domaine pour l'utiliser dans une discussion avec les élus, on va piocher dans un autre domaine, et encore je dis les élus, ça peut être un moment avec un adjoint à la culture, un moment avec une commission avec laquelle on va plus travailler, où on va être sur des chiffres peut-être un peu plus détaillés, et je pense qu'on a à piocher vraiment dans les différents domaines pour des usages et pour des moments différents, quoi. Ouais, effectivement, ça en fait beaucoup, mais
donc, l'idée, c'est
je pense que c'est utile.
On collecte beaucoup, ouais. Et on utilise après sélectivement, ouais, quand, ouais, on construit des indicateurs en fonction de, aussi, j'imagine, des objectifs qu'on s'est fixés à un moment, et on construit l'indicateur à partir de l'objectif. Donc on valide les 478 items et on essaiera de voir s'il faut en rajouter quelques-uns.
Il y en a 100 où j'ai mis NC, c'est pas grave.
Voilà, je vais... Une question, il faut quand même qu'on puisse passer la parole aux collègues. Donc une dernière question.
Oui, c'est une question qu'on n'a pas beaucoup évoquée ce matin quand on a parlé de la collecte. C'est la fréquentation virtuelle de votre médiathèque ou de votre réseau de médiathèque. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à prendre une réalité pour vous? Est-ce que vous commencez à élaborer des façons d'intégrer ces données-là dans votre évaluation, dans l'évaluation de votre action? On a parlé tout à l'heure d'un système qui était en cours d'évaluation en ce moment, en cours d'expérimentation, qui arrivera à terme en 2015. La fréquentation virtuelle des médiathèques. médiathèque. Je pense que ce sera une donnée dont il faudra tenir compte. Est-ce que vous, vous commencez à l'intégrer dans votre réflexion et comment ?
Je crois que j'ai mis NC pour ce champ-là aussi. De fait, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, mais des services informatiques. Et on a des chiffres sur la porte d'entrée qui est le site municipal, mais pas sur le logiciel lui-même de catalogue en ligne. Donc on a des chiffres partiels et qui ne sont pas sous la forme normalisée par le SSL, puisqu'on avait le nombre de clics mensuels, ce qui n'était pas la forme retenue. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est très important. On avait le nombre de réservations, par contre. Voilà, réservation en ligne, on l'avait. Pareil, donc c'est pas, on va essayer d'année en année d'aller dans cette direction-là, c'est-à-dire quitte à avoir un seul chiffre, autant avoir celui qu'on va pouvoir réutiliser. Mais de fait, c'est des sources extrêmement différentes qu'il faut récupérer. Donc quand on l'a pas anticipé bien en amont, c'est difficile. Par contre, une réflexion, c'est vrai que si c'est mis en valeur de manière cartographique et de manière très claire, c'est vrai que si c'est autant de publicité dessus, peut-être que les professionnels vont faire plus attention et participer plus. Ça peut être une donnée aussi qui permettra d'y répondre plus.
Ce qui est intéressant, justement, là, le fait que le formulaire, maintenant rénové, intègre des questions sur les virtuels, effectivement, les données numériques et puis les visites virtuelles, des choses comme ça, c'est que ça fournit un cadre pour qu'après, on puisse essayer de répondre à ces questions dans un cadre qui soit à peu près normalisé. Mais c'est vrai que pour l'instant, on balbutie encore dans ce domaine-là. Bon, je clôt cette question-là qui est tout à fait intéressante, mais pour pouvoir passer la parole aux collègues de l'Aude, peut-être que Pascal, tu peux commencer par présenter effectivement, tu m'as parlé de projet par rapport aussi à SIG, là, il y a un projet plus départemental, et puis voir peut-être avec Emmanuel comment ça s'articule entre la communauté de communes, le département, comment à l'intérieur de la communauté de communes, sur un échelon très fin finalement, vous travaillez aussi cette question de l'évaluation. Pascal ?
Oui, alors, bien sûr, je répondrai à cette invitation, mais pour rebondir sur la question de la fréquentation des sites, enfin, et comme un peu sur tous les autres domaines, sur l'évaluation de l'utilisation des collections, des politiques d'acquisition, etc., les bibliothèques départementales sont quand même des objets un peu singuliers. Je pense qu'on est quelques-uns à être d'accord sur là-dessus. Et par exemple, là, moi, j'ai souhaité que le site de la bibliothèque départementale de l'Aude soit réorienté vers une utilisation quasi exclusive en direction des membres du réseau. C'est-à-dire, donc on n'interdit pas, enfin tout le monde peut aller sur à peu près n'importe quelle page, mais on ne s'adresse pas a priori au grand public, on ne s'intéresse pas au lectorat, on s'intéresse plutôt aux bibliothécaires. Donc évidemment, la fréquentation, enfin en fonction de la destination de ce site web, la fréquentation du site web va changer, enfin je suppose. Bon. Par contre, on est en train de travailler sur un outil qui va être un portail qui va mutualiser les ressources à la fois de signalement et les ressources numériques des archives départementales, de la bibliothèque départementale, de la conservation du musée, voire associer les catalogues et les ressources des grandes bibliothèques du département de l'Aude. Bon, évidemment, la fréquentation de ce site-là donnera d'autres indicateurs et portera sur un corpus différent. Donc, voilà, c'est toujours un peu la même chose. Donc, moi, les problèmes auxquels je me heurte, si vous voulez, dans le cadre de la direction de cette bibliothèque départementale, c'est... Et donc, c'est les problèmes de ce matin, c'est le problème du recueil des données. Ça peut sembler basique, mais on s'aperçoit. Donc, on a. Je pense que depuis que la bibliothèque départementale existe, il y a eu à peu près une modification par an sur le formulaire qui permet de recueillir les données, parce qu'on se disait, ah oui, ça c'est mal dit, ils n'ont pas compris, on va le formuler différemment, c'est pas utile, etc. Bon. Et puis, ça semble toujours aussi peu satisfaisant. Donc là, on s'est dit avec l'équipe que on allait accompagner la saisie de ces données. C'est-à-dire qu'on allait réunir les bibliothécaires du réseau et le remplir avec eux, en quelque sorte, ce rapport statistique. Donc, on va aussi permettre la saisie sur un fichier électronique. J'espère permettre la saisie en ligne prochainement. L'exploitation des données, moi, elle me sert à la fois pour nourrir le rapport d'activité vis-à-vis du Conseil général, c'est-à-dire de l'ensemble des de l'équipe des directions et des élus. Et puis, et David l'a dit, également en interne, hein, il est important que toute l'équipe avec laquelle je travaille ait une vision de ce qui se passe sur l'ensemble des territoires de ce département. Et il est important aussi que la vision que les Audois ont de ce qui se passe dans l'Aude soit mise en regard avec la vision de ce qui se passe dans les autres territoires. Hein. Donc on a du travail au niveau régional et quasiment sur deux régions, puisque je suis dans un département qui est limitrophe de Midi-Pyrénées. Donc sans pour ça vouloir se renfermer sur un sud voilà, qui ne regarderait nulle part ailleurs. Mais enfin, parce qu'on a quand même là des comparaisons et on peut travailler ensemble plus facilement. Donc c'est aussi un outil qui va être utilisé pour faire une synthèse par territoire auprès des élus des territoires en question. Hein, pas uniquement les élus du conseil général, mais les élus communaux, les élus des communautés de communes, et évidemment les bibliothécaires concernés de ces territoires. Et donc dans ce cadre-là, un peu pour ces deux raisons, le département de l'Aude développe en ce moment un système d'information géographique. Et pour tout vous dire, personne n'avait pensé à intégrer la bibliothèque départementale à ce projet. Hein, donc je suis allé voir le chef de projet et je lui ai dit que moi ça m'intéressait. Peut-être ça n'intéressait personne d'autre, mais moi ça m'intéressait. Donc c'était peut-être un peu pour valoriser, pour faire coucou, on existe. Mais dans mon esprit, c'est surtout pour pouvoir croiser des données qui sont des données purement lecture publique avec d'autres données. Alors vous allez me dire que pour l'instant ça ne va pas être forcément très très utile parce que un des premières données qui vont nourrir ce SIG, c'est le service des transports et toute la problématique autour de l'eau. Donc à moins de croiser le taux de magnésium dans l'eau potable et le bon rendu des statistiques, je ne vois pas trop ce que ça pourra servir. Mais si on réfléchit à toutes les politiques sociales, par exemple, hein, à toute la politique de subventionnement des territoires, il me semble que là, pour guider et analyser une politique départementale, donc je ne parle pas uniquement de politique de lecture publique, pour réfléchir sur des mutualisations avec d'autres équipements, hein, qu'ils soient culturels ou qu'ils ne soient pas culturels, ce sera un outil très, très important et évidemment un outil qui a une vertu pédagogique, hein, qui est lisible par assez facilement, bien qu'on ait parfois des problèmes avec les cartes pour la lecture des plans en tous les cas, mais qu'on peut espérer plus visible. Voilà, c'est un peu la problématique dans laquelle on travaille. Et donc, par rapport au réseau de la bibliothèque départementale, et donc, par exemple, à des individus à tête multiple, hein, puisqu'on a des partenaires qui sont intercommunaux, hein, donc qui sont répandus, si je puis dire, et écartelés sur des territoires, notre posture est la même que celle de l'État. Je ne dis pas ça pour valoriser le... Mais juste parce qu'il me semble que c'est effectivement intéressant, c'est de pouvoir donner des outils d'analyse aussi, hein, aux gens qui travaillent sur ces territoires.
Alors, bonne animatrice, je vais donc pouvoir passer la parole à Emmanuel. Donc, comment est-ce que vous utilisez effectivement les outils que la bibliothèque départementale met à votre disposition dans votre travail d'analyse et d'évaluation ?
Alors, concernant le SIG, puisque c'est un outil encore en construction, évidemment, pour le moment, on n'en fait rien. Ensuite, concernant le rendu des données des rapports annuels, nous, ça nous permet de situer nos données par rapport justement à l'échelle départementale. Et donc de mettre en rapport les données que nous collectons avec des données à l'échelle départementale qui sont peut-être plus parlantes, même si ça n'empêche pas de le mettre en rapport avec des données nationales. On a un échelon plus proche.
Donc ça veut dire que vous utilisez, au niveau des comparaisons, vous utilisez essentiellement les comparaisons départementales et moins les comparaisons nationales.
Les deux.
Et l'échelon régional?
Et l'échelon régional, non.
C'est vrai qu'on a, on a quand même une donnée fondamentale, c'est que quand on parle à un élu, et je ne pense pas que ce soit le propre du département de l'Aude, hein, mais quand on parle à un élu de ce qui se passe à l'autre bout de la France, même si la situation est absolument comparable, hein, ça va moins lui parler que si on lui parle de ce qui se passe chez quelqu'un qu'il connaît, hein, qu'il peut, avec qui il peut discuter, éventuellement quelqu'un avec lequel il sera content de faire un peu mieux. Il n'y a pas de raison qu'il l'ait fait là-bas. Et voilà. Bon. Et ça, c'est quand même un ressort avec lequel on a, on a joué. Alors, je crois que là, on a une difficulté, toujours par rapport à l'exploitation des données, une difficulté qui se fait jour, et c'est bien la faute de l'État, c'est que on avait beaucoup travaillé, nous, on a le logiciel d'Opsis à l'OS, on avait travaillé lorsqu'on l'a acquis, avec l'équipe d'Alos pour développer des notions territoriales, donc communauté de communes, pays, voilà, c'est ça, et tirer de photoréseau des données à partir de ces approches territoriales-là. Ces approches territoriales, elles vont changer avec la réforme des collectivités locales, et ces territoires vont être modifiés. Hein. Donc, quelqu'un qui voudra interroger toutes les données que l'on recueille là, durant ces années troublées, il va avoir un sacré boulot, parce que la base de comparaison va être variable. Hein. Et donc, Dominique Lahari me le disait tout à l'heure, il est sans doute essentiel de garder cette notion de commune siège comme une référence constante, parce que sinon, ça va devenir très très difficile de faire de l'évaluation historique, en quelque sorte, hein, sur des territoires complètement mouvants.
Et ça, c'est une difficulté majeure, effectivement, quand dans une série historique, on change la granularité, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, j'allais dire qu'on peut se raccrocher effectivement à la bouée de sauvetage de la commune. Comme en France, finalement, tout revient toujours à la commune, puisque elle, qu'elle soit fondue à l'intérieur d'une interco ou d'un pays ou à l'intérieur du département. Donc, je pense que c'est ce que tu voulais dire, Yegor, en disant que l'échelon de base restait le numéro RCR là, ce matin. Donc, quelque part, c'est un peu curieux dans un moment où on dit beaucoup qu'on veut développer l'intercommunalité, et on s'aperçoit que pour faire l'analyse, on est obligé de retourner au niveau de la commune.
Toujours agréger des données unitaires, on ne peut pas forcément désagréger des données agrégées.
Tout à fait. Emmanuel, vous voulez dire quelque chose?
Oui, concernant le fait de travailler à partir des données des communes, moi, il me semble que c'est effectivement plus facile et intéressant quand on est dans la collecte des données. Par contre, quand on est dans l'analyse, pas forcément, parce que si je regarde, par exemple, moi, le périmètre territorial que je regarde, je regarde un bassin de vie essentiellement. Et donc là, on saute encore les barrières administratives dont finalement la population a. Elle regarde la bibliothèque qui est la plus proche de chez elle. Est-ce que cette bibliothèque relève de sa communauté de communes, de sa commune? C'est pas très intéressant pour eux. Et donc, c'est vrai que quand on analyse les données, il y a cet échelon-là encore, enfin, sur lequel c'est très difficile de travailler, mais qui est vraiment l'échelon pertinent, moi, il me semble.
Par rapport à ça, effectivement, je pense que l'endroit d'où on analyse est effectivement très différent. Quand on analyse de Paris, je ne pense pas que sur une intercommunalité, on ait besoin effectivement de savoir si c'est telle ou telle commune qui est fréquentée. Quand on est dans le département, déjà un petit peu plus, et au niveau de la communauté de communes, oui, évidemment, on va regarder de manière très fine, et on va y compris probablement avoir à analyser des données, ce qu'on ne fait pas classiquement, hein, mais quand on a l'occasion de faire parfois des diagnostics de territoire, on va avoir les sociétés qui viennent étudier, qui font faire des audits, vont étudier effectivement les déplacements, les répartitions de population, vont comparer les bibliothèques et la fréquentation des bibliothèques avec la présence d'un médecin, d'une pharmacie, d'un collège, enfin ce que David a dit tout à l'heure aussi et Pascal par rapport aux données contextuelles. On peut jamais analyser des données, enfin on peut pas faire une analyse simplement avec les données des bibliothèques, ça c'est clair, parce que une bibliothèque va avoir un taux de fréquentation à un endroit qui va peut-être paraître pas très bon et qui va finalement pas être si mauvais que ça quand on va considérer que cette commune peut-être n'a pas de commerce, n'a pas d'équipement attractif. À l'inverse, une commune centre qui a un taux de fréquentation bas, c'est vraiment inquiétant. Si la population a toutes les raisons de venir dans cette commune, et qu'elle ne fréquente pas la bibliothèque, c'est un signe particulièrement inquiétant. Donc on est toujours dans une contextualisation. J'avais une petite question, moi, sur les territoires et les comparaisons par territoire. Je trouvais très intéressant aussi ce qu'a dit David tout à l'heure sur les comparaisons de proximité. Je pense que le niveau national fournit des moyennes, vraiment des grands cadres. Peut-être aussi devrait se préoccuper, mais ces moyennes ne sont pas très opérantes par rapport à des recommandations, et même quelquefois c'est contre-productif, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'une moyenne, un élu va considérer que de toute façon c'est bon, il est au-dessus de la moyenne nationale. Alors que cette moyenne nationale n'est peut-être pas satisfaisante en termes d'objectifs de pénétration des bibliothèques et de couverture du territoire. Donc, par contre, la comparaison en proximité est effectivement souvent très parlante, parce qu'on connaît le territoire avec lequel on est comparé. On situe mieux aussi les élus dans un département. Ils savent à peu près hein, quelle zone du département est une zone fragile économiquement. Enfin, il y a vraiment des contextes qu'ils ont. Par contre, ça pose parfois des problèmes politiquement. C'est pas toujours facile de faire de la comparaison de territoire, de faire de la classification. Je pense par exemple à la classification de la DBDP. Quand on l'applique et qu'on la publie dans un département, ça peut parfois, quelquefois, faire des petits problèmes au niveau politique. Est-ce que dans l'Aude, vous avez pu rencontrer des problèmes comme ça?
Oui, ben on est des pédagogues, on explique. Donc, je crois que c'est pas mal finalement quand il y a une réaction, même si elle est basée sur une incompréhension, parce que ça donne justement un espace de discussion. De ce point de vue-là, la publication de moyennes, par exemple, doivent toujours être. Je ne sais plus qui disait ce matin, il faut des chiffres et puis il faut commenter les chiffres. Enfin, voilà, ça, c'est le point de départ d'une discussion pour moi. Si on donne les chiffres bruts et que non seulement on ne les accompagne pas dans le corps du document lui-même, mais aussi par des rencontres, des rendez-vous, voilà, toute une pédagogie, on est à peu près sûr que ça ne servira peut-être pas à grand-chose, parce que tout n'est pas lu en plus, mais qu'éventuellement ça pourrait même être néfaste en quelque sorte.
Emmanuel, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, on va, vu l'heure.
Si, moi, j'avais juste quelque chose dont il a peu été question, finalement, qui était la question de la mise en... On a mis en rapport avec les données de population, les données locales, etc. Mais, en tout cas, sur certains moments dans les échanges avec les élus autour de l'évaluation, se pose la question des objectifs. Et c'est vrai que dans les communautés de communes, c'est un endroit où on a particulièrement du mal à échanger là-dessus, du fait du mode d'élection, hein, puisque effectivement chaque équipe d'élus est élue sur un projet dans sa commune, mais que il n'y a pas de projet commun, quoi. Et donc c'est vrai qu'on se trouve, s'il n'y a pas une commission culture qui vraiment s'empare d'une volonté de travailler sur des objectifs communs, on se trouve face à cette difficulté de pas pouvoir relier finalement les données qu'on peut avoir et les objectifs qui seraient ceux des élus.
Oui, objectifs qui, si je comprends bien, n'ont pas été vraiment fixés.
Sont souvent peu explicités, effectivement, et n'ont pas tellement lieu d'exister au démarrage, en tout cas, de la communauté de communes, puisqu'il n'y a pas d'élection sur un projet commun.
D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, puisqu'on essaye de rattraper notre retard, mais on veut bien quand même vous passer la parole pour quelques minutes avant de passer à la table ronde suivante. C'est une assistance qui est très très sage. Je vous félicite. On ne sait pas si c'est parce qu'on vous a assommé, si c'est parce que c'est toujours difficile après le repas. S'il y a peut-être certains qui ont des éclairages par rapport à ce qui a été abordé ou des manques, des choses qui n'ont pas du tout été vues. Non ? Dans ce cas-là, c'est parfait. Sur la question des objectifs, parce que je suis une horrible bavarde, donc je prends quand même 2 minutes. C'est vrai que c'est quand même là ce que vous venez de dire, Emmanuel, je trouve, pose vraiment question, parce que l'évaluation, je pense qu'elle n'a pas vraiment de sens si elle ne répond pas à des objectifs. Évidemment, dans un premier temps, ça a été très bien dit ce matin, hein, c'est descriptif et c'est comparatif, mais... Je retiendrai aussi beaucoup de ce qui a été dit pour l'instant, c'est dans toute la journée, c'est la question du sens, en fait. Que ce soit pour les collègues pour lesquels on travaille, quand on est en BDP, et vous n'avez pas évoqué, vous, Emmanuel, c'est peut-être une question que j'aurais pu vous poser, aussi la question des bénévoles, par exemple, hein, parce qu'on parlait des collègues salariés, mais dans une communauté de communes, en milieu rural, vous allez travailler avec des bénévoles aussi, donc il va falloir porter cette question de l'évaluation.
Oui, tout à fait. Donc, alors, comment est-ce que... C'est vrai qu'on est, du coup, au niveau de la collecte, on est un échelon intermédiaire, puisque nous, dans notre cas, en tout cas, on centralise la collecte des rapports d'activité annuels pour la bibliothèque départementale et auquel on transmet ensuite. Et donc, on est un des interlocuteurs, en tout cas, des équipes bénévoles autour de ces questions d'évaluation. Ouais.
Et est-ce que ça se passe bien, la collecte des données, c'est facile?
Ben, ça, je l'envoie en même temps que les vœux de bonne année, puisque l'année démarre. Non, c'est assez difficile, et c'est vrai que dans l'évaluation, pour moi, se pose souvent la difficulté du manque de données, puisque justement les réponses NC sur des toutes petites structures, effectivement, on en a beaucoup. Donc,
tout le monde voit dans la salle ce que c'est, les fameuses réponses NC.
Non parlées, <d'avis. rire>
non communiquées. Voilà, ça c'est quand on ne sait pas répondre. Donc j'ai souvenir de quelques rapports annuels qui remontaient des petites bibliothèques dans le département où je travaillais, où entre les zéros et les NC.
Alors, on est assez démunis après pour évaluer.
Et j'ai oublié de vous poser une question, Pascal. Alors, je la pose. Quel document de communication pour le réseau?
Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle l'agenda mémo. C'est pas très beau. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est une grille. Voilà, c'est une grille avec des champs à remplir. Donc ça va être en ligne. En attendant, une feuille à remplir en ligne.
Et je ne suis pas bien fait comprendre. Et après, une fois qu'ils ont répondu, qu'est-ce que vous leur renvoyez de...
Ah, donc on a un rapport d'activité qu'on peut tirer directement de notre SIGB, donc à la fois par bibliothèque site et par territoire. Et puis c'est ce qui va se faire cette année. Et au-delà de ces données un peu brutes aussi, un commentaire, un argumentaire, voire de l'illustration, parce que c'est quand même tout à fait frappant que des gens qui vivent très près les uns des autres et qui travaillent dans le même domaine, même s'ils travaillent bénévolement, sont souvent refermés sur leur village, sur leur ville, et ne savent pas qu'il y a eu telle nouvelle bibliothèque qui s'est construite pas très loin. Et donc leur mettre la photo, par exemple, ça peut être utile.
Merci. Donc, s'il n'y a pas de remords dans la salle et si vraiment vous n'avez pas trouvé de questions, nous allons céder la place à la prochaine table ronde. Merci.